Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Hey, you know what?
Diffusés tous les jours de 10h à 11h, du lundi au vendredi, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés par Midia Portis-Guérin, avec Jean-Richard Dufour à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Claire Delnat, Marine Boistet et Adèle Van Rett. Adèle qui vous donne rendez-vous à 10h50, tout à l'heure donc, dans le journal des Nouveaux Chemins, pour une discussion avec l'excellent pédagogue Roger Paul-Droit, auteur récent d'un livre sur 20 mètres à penser. Suite et fin déjà ce vendredi de la première semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent au bac philo, une semaine organisée en partenariat avec le hors-série de Philosophie Magazine sur le bac philo à paraître le 21 avril, et une semaine à l'attention des candidats au bac que l'épreuve terrifie, ou qui au contraire pêchent par excès d'assurance face à un exercice que même leurs professeurs trouvent difficile. Après Alexandre Larguier, Olivier Chapignac, David Le Breton et Anne-Sophie Rémy, c'est aujourd'hui Élodie Cassan qui est notre invitée, Élodie Cassan que les auditeurs des Nouveaux Chemins ont déjà entendu décrypter les méditations métaphysiques de Descartes, et qui vient cette fois-ci se demander pour vous si l'histoire n'est qu'un récit. Bonjour Élodie Cassan.
Bonjour Raphaël Enthoven.
C'est un sujet difficile, hein. L'histoire n'est-elle qu'un récit ? C'est un sujet susceptible de tomber, qui d'ailleurs peut-être est déjà tombé. C'est celui que vous avez choisi, alors mettez-vous un instant, hein, c'est le jeu, dans la position de l'élève, que vous n'êtes plus, vous l'enseignante, vous repassez le bac philo, vous passez le bac philo, vous tombez sur ce sujet et vous le choisissez. Comment réagissez-vous face à une telle question ?
Alors, première réaction, je cherche à identifier la notion. Dans ce sujet, c'est extrêmement simple, c'est la notion d'histoire qui s'agit d'interroger, et je regarde la forme du sujet. L'histoire n'est-elle qu'un récit ? Il y a le verbe « être », ça veut dire qu'il s'agit de réfléchir sur la question suivante, qui est de savoir si on peut définir la notion d'histoire par la notion de récit. Et la deuxième chose que je fais, quand je fais attention à la forme du sujet, c'est que je regarde la syntaxe, et pas simplement le verbe. Quand il y a une question en « ne que », ça veut dire qu'il y a une affirmation implicite. Quand on demande si l'histoire n'est qu'un récit,
on présuppose qu'elle l'est déjà.
On présuppose qu'elle l'est en partie, et que du coup, le problème, c'est de savoir si la notion de récit suffit à caractériser l'activité de l'historien ou l'histoire en général ou pas.
En d'autres termes, s'il fallait traduire cette question de façon positive, enfin en termes positifs, sans la négation, on dirait le récit suffit-il à faire l'histoire ?
Exactement. Et ce travail de reformulation, c'est ce qui doit être fait dans le cadre d'une introduction. C'est ce qu'on appelle la problématique. Le récit paraît une condition nécessaire pour penser l'histoire, mais est-ce que c'est suffisant ?
Alors, dans ces conditions, on a l'analyse des termes, hein, l'histoire, ce qu'il faut entendre par l'histoire. La question de savoir si on met un grand ou un petit H, en l'occurrence, peut servir. Et la question de savoir si elle est réductible ou non au récit. Est-ce qu'il n'y a pas un élément supplémentaire dans cette problématique qui serait la tension, finalement, entre la valeur de connaissance qu'implique l'histoire, l'hypothèse, la possibilité que l'histoire soit une science, pour le dire très rapidement, et la valeur strictement narrative, voire romanesque, tout simplement
d'un récit. L'enjeu du sujet. C'est-à-dire que, donc, une fois qu'on a formellement identifié le problème, il faut se demander pourquoi il est posé. Ça revient à faire ce que vous dites, à savoir analyser les termes du sujet. On voit que la notion d'histoire a deux sens qu'il va falloir interroger, mais dans un premier temps, au premier quart d'heure, au brouillon, on liste les deux sens, l'histoire en train de se faire, l'histoire au présent, et deuxième sens, l'histoire comme objet de connaissance, l'histoire écrite par l'historien. Ensuite, on travaille sur récit, c'est l'acte de raconter une série d'événements, que ces événements soient réels ou fictifs, et assez vite, on comprend que ce qu'il s'agit d'interroger dans ce sujet, c'est la scientificité de l'histoire. Si l'histoire est un récit, reste-t-elle une science ? Dans quelle mesure est-ce que recourir au récit est quelque chose qui est constitutif de cette activité scientifique ? Et l'activité de connaissance vraie du passé.
Donc vous faites intervenir un troisième terme qui serait implicitement contenu dans cette alliance ou dans cette tension entre l'histoire et le récit, qui est la notion de science en opposant le récit et la science. On pourrait vous rétorquer, Élodie Cassan, qu'un récit en lui-même est une reconstruction et que donc il obéit à une... Il est gouverné par l'ambition scientifique de tout dire de quelque chose. Et donc à cet égard, il relèverait lui-même de la science. Est-ce qu'il n'y aurait pas un récit scientifique de l'histoire ?
C'est ce qu'il faut se demander et on peut... moi, ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il faut absolument décomposer les questions. C'est-à-dire que là, le problème, il est très clairement posé. Comment articuler histoire et l'activité d'écrire, l'activité de raconter. Dans un premier temps, qui va être central, donc dans la première partie du sujet, il va falloir se demander... Pourquoi l'histoire s'appuie sur des récits? Quelles sont les caractéristiques d'un récit historique? Comment est-ce qu'on construit un récit historique? Et dans un deuxième temps, il va falloir essayer de voir, comme on l'a vu en posant le problème, si la notion de récit suffit à épuiser la notion d'histoire, c'est-à-dire, y a-t-il incompatibilité entre l'exigence scientifique de l'historien qui est d'expliquer et de comprendre les faits et l'acte d'écrire? Et il va falloir se demander aussi si cet acte d'écrire rencontre du quotidien du métier d'historien. Et dans un dernier temps, on pourra, à partir de là, essayer de savoir dans quelle mesure l'historien qui a un objectif scientifique peut, quoi qu'il en soit du caractère problématique de la notion de récit, s'appuyer sur des récits et lui-même écrire des histoires.
Et dans quelle mesure, par conséquent, même un roman peut étayer le travail de l'historien? Après tout, Michelet lui-même se servant citer Notre-Dame de Paris en expliquant que Victor Hugo avait écrit des pages définitives sur l'époque dont il parlait.
Alors, votre remarque m'appelle deux remarques. La première, c'est qu'il va falloir, dans le cadre de ce sujet, s'interroger sur tous les sens de la notion de récit et sur tous les types de rapports que l'histoire peut avoir avec récit. Ça va revenir à... essayer de distinguer l'acte d'écrire de l'opération de construire l'histoire. Un historien raconte une époque, raconte l'itinéraire d'un individu, donc fait une histoire. Ça veut dire que l'histoire a notamment une forme narrative. Mais deuxième chose, même des historiens qui ne s'attachent pas à retracer le parcours d'un individu peuvent aussi essayer de introduire des éléments qui sont les éléments du récit. Il va toujours y avoir un début, il va toujours y avoir un milieu, il va toujours y avoir une fin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'historien peut s'appuyer sur des romans qui parlent du réel. On peut penser aussi à Stendhal, on peut penser à la manière dont la bataille de Waterloo est décrite chez Stendhal. Donc, effectivement, l'historien peut s'appuyer sur des romans.
Ou la façon dont la bataille de Waterloo est décrite dans les Misérables. Chez Victor Hugo, c'est le point de vue d'hélicoptère, au fond, hein, le point de vue synoptique, celui qui voit tout et qui va même jusqu'à lire dans les consciences, alors que chez Stendhal, c'est le point de vue, le petit point de vue minuscule de Fabrice Del Dongo perdu dans la bataille de Waterloo. On va revenir sur tout ça avec vous, Élodie Cassan. On commence donc cette dissertation. On a vu comment vous construisiez votre plan. Un rappel juste, la problématique, c'est-à-dire la question qui gouverne votre démarche, comment est-ce que vous la formuleriez pour qu'on l'ait en tête? Rappelons quand même à l'attention des élèves qui passent le bac que c'est très important d'avoir en tête toujours cette question, parce qu'après tout, c'est quand même la question à laquelle il faudra répondre à la fin d'une disserte.
La problématique est la suivante. La dimension du récit est-elle essentielle à l'histoire? D'un côté, l'histoire est indissociable d'un dire, et un élève de terminale s'en rend bien compte, puisque dans son cours d'histoire, il entend des histoires sur le monde de 1945 à nos jours, l'Europe de 1945 à nos jours, la France de 1945 à nos jours. Donc, l'acte de raconter est constitutif de la discipline historienne, mais est-ce qu'elle est le tout de l'activité de l'historien? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a incompatibilité entre le métier d'historien et le métier d'écrivain, pour le dire à gros traits?
Alors allons-y. Première partie, dans ces conditions, à partir du moment où vous posez ces termes, juste une question encore que je pose à tous vos collègues, que j'ai posé à tous vos collègues depuis le début de cette semaine, une semaine en forme de journée pour nous, Élodie Cassan. Est-ce que vous tenez, mettons vous corrigez des copies du bac, est-ce que vous tenez à voir dans l'introduction, qui est un moment très important de la dissertation, peut-être le plus important, à voir l'annonce du plan dans l'introduction, ou est-ce que la formulation de la problématique vous suffit?
Alors, il n'est pas obligatoire de mentionner le plan. Il est malgré tout très fortement conseillé de le faire, eu égard à l'état de fatigue du correcteur du bac qui a 130 copies. Ça lui facilite notablement la vie et ça le met dans de meilleures dispositions à l'égard, par exemple, de copies dont l'écriture est difficile à lire.
Voilà, donc il faut ménager son correcteur, absolument, et se souvenir que le correcteur, pour être correcteur, n'en est pas moins un humain, avec des humeurs, et que par conséquent, selon l'heure à laquelle il corrige et selon le nombre de copies qui précèdent celle qu'il est en train de corriger, les notes peuvent être différentes, Élodie Cassan. Et c'est vrai pour toute chose. Nous ne sommes pas des machines, et vous n'êtes pas une machine. À la radio, on ne voit pas que vous faites oui, de la tête. Voilà. Allons-y. Venons-en donc à la première partie. L'histoire n'est-elle qu'un récit ? À quelle hypothèse allez-vous donner sa chance dans la première partie ?
Il va s'agir de répondre à une question qui est de savoir dans quelle mesure la discipline historique, en tant qu'elle a pour objet la connaissance d'une réalité passée, est indissociable d'une activité de dire et d'écrire. Donc, il va s'agir de tenter de répondre à cette question.
Au fond, faire l'histoire d'un phénomène, c'est raconter des histoires.
Faire l'histoire d'un phénomène, en particulier le phénomène humain qui s'inscrit dans le temps, c'est raconter des histoires. Expliquer ce qui est arrivé à une personne, à un groupe de personnes, dans un espace temporel donné et dans une série donnée de lieux. Un début, un milieu, une fin, des évolutions, des changements, des péripéties.
Et est-ce que dans ce contexte, le simple fait que la notion même d'histoire soit apparue avec l'apparition de l'écriture est en soi un élément de réflexion ? Après tout, on est passé de la préhistoire à l'histoire avec l'invention de l'écriture.
Alors, peut-être, mais pas nécessairement, parce qu'il y a aussi des histoires qui se transmettent par la parole.
C'est le modèle de l'Odyssée, en l'occurrence. Vous allez vous servir de l'Odyssée dans la première partie, Elodie Cassin ?
Je vais m'en servir, oui, pour essayer de penser la distinction entre récit légendaire, récit historique. On est au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Il va s'agir ici de essayer de penser quelles sont les caractéristiques d'un récit historique à proprement parler. À savoir que un récit historique va porter sur ce qui s'est vraiment passé. Et on a deux types de récits importants dans l'Antiquité grecque. Des récits qui sont des récits type l'Odyssée et les premiers récits des premiers historiens type Hérodote, type Thucydide.
C'est-à-dire d'un côté Homère, de l'autre côté Hérodote.
Oui.
D'un côté la fiction, la pensée magique et la poésie. De l'autre côté, une prétention presque journalistique, à restituer les choses comme elles se sont produites.
Tout à fait. Et je cite simplement le début du livre de Hérodote, donc qui s'intitule Les Histoires et qui justifie son projet. Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête afin que le temps n'abolisse pas le souvenir des actions des hommes et que les grands exploits accomplis, soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. J'arrête ici la citation. Cette citation m'intéresse ici parce qu'elle montre que la discipline historienne naît à partir du souci de rendre compte de ce qui s'est vraiment passé dans le passé des hommes. Il va falloir écrire pour garder en mémoire. La mémoire nécessite la mise en écriture, la mise en mots.
Alors dans ces conditions, on se retrouve est-ce que vous commencez la dissertation avec la référence à Hérodote ou est-ce que vous la commencez avec un exemple historique ? Est-ce que vous commencez au fond par la façon dont on raconte l'histoire ou par l'événement qu'il s'agirait ensuite de raconter en historienne ?
Je commence par une question qui est: comment peut-on associer ces deux termes, histoire et récit ? Et je commence par travailler sur l'histoire au sens de connaissance de la réalité du passé. Partons de cette idée que l'historien étudie le passé. Ceci est un objet très problématique, puisque le passé, par définition, n'a plus d'existence matérielle en lui-même, il n'existe que de par les traces qu'il a laissées. Comment y accéder ? Il s'agit de repartir dans la posture de l'historien, on est dans le présent et on fait accéder à l'être une dimension de l'existence qui est du passé. Comment faire ? Il faut le mettre en mots, en faire le récit, et je pars d'une citation de saint Augustin dans les Confessions, dans laquelle saint Augustin parle de son enfance. Et il dit « Mon enfance, elle est dans un passé qui est disparu. Mais quand je l'évoque, quand je la raconte, c'est dans le présent que je vois son image, car cette image est encore dans ma mémoire. » Et cette citation m'intéresse ici dans la présente dissertation parce qu'elle permet de comprendre comment on fait du passé des récits véritables. Tout simplement, on commence par parler de ce qui s'est passé et il y a une première conceptualisation du passé qui s'effectue comme ça. Et le phénomène qui touche ici Saint-Augustin à son échelle individuelle est assez révélateur du fonctionnement de l'écriture de récits historiques en général.
C'est-à-dire cette écriture rétrospective malgré tout.
Oui. Hein,
c'est une écriture qui se fait après coup. Comment échapper, et est-ce une question que vous vous posez dès la première partie, à la tentation de la reconstruction. Mettons que quand on vit les événements, hein, quand on les subit, quand on les vit, quand on en est le contemporain, on n'en voit pas le sens, on n'en voit pas la destination, on n'en voit pas non plus forcément l'origine. On peut considérer qu'avec le recul que l'histoire ménage et le regard rétrospectif qu'elle permet de poser sur ces événements, on peut inscrire un événement, on peut substituer à la myopie de celui qui a vécu l'événement de trop près, la longue vue, la perspective panoramique de celui qui, regardant l'événement de plus loin, en saisit à la fois les causes et en saisit également le sens ou la destination. Mais on peut aussi reprocher à celui qui fait cela d'emprisonner l'événement dans un sens, dans une signification précise, et par conséquent de réduire l'événement à un sens qu'il n'a pas forcément ou qu'il n'a pas seulement, Élodie Cassan.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites et qui peuvent intervenir à différents moments du raisonnement de la dissertation. Pour ce qui est du premier moment dans lequel nous nous trouvons, s'agit de répondre à la question de savoir comment un historien construit un récit historique. Pour cela, il va s'appuyer notamment sur des témoignages qui sont ceux des acteurs qui, eux, effectivement, sont dans ce que vous appelez, à juste titre, la myopie du présent. Et il va lui falloir interpréter ces témoignages, déjà les trouver, les comprendre et les interpréter.
Alors ?
Et donc cette interprétation explique par exemple qu'un historien comme Marc Bloch fasse l'apologie de notes de bas de page en disant qu'il s'agit à chaque étape du récit que l'historien construit de s'appuyer sur des documents qui ont été contrôlés. Il doit en donner la référence, la provenance et de manière à conférer à son récit une relative scientificité. Maintenant, pour la deuxième chose que vous disiez, la question est effectivement de savoir si l'historien, qui fait forcément des choix, ne risque pas d'emprisonner l'événement dont il parle en faisant un récit un peu tronqué. Et cette question, moi, je la garde pour la seconde partie, pour essayer de montrer justement les limites de l'approche de l'histoire comme étant entièrement constituée par le récit.
Entièrement constituée par le récit, est-ce qu'il faut identifier récit et narration ici. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que par le récit, il faut entendre simplement le fait de présenter l'enchaînement des événements parce que, au fond, pour prendre un exemple très précis, Willy Brandt s'agenouille dans le cadre de Lost Politik, il s'agenouille devant un monument aux morts du ghetto de Varsovie. Il tombe à genoux devant ce monument, alors qu'il est, chancelier d'Allemagne de l'Ouest, il tombe à genoux devant ce monument. Bon, c'est un geste qu'il n'avait pas prévu. C'est un geste dont il raconte lui-même qu'il ne l'avait pas prévu. C'est un geste, alors, un historien pourrait être tenté de dire « Willy Brandt avait l'intention de faire quelque chose d'exceptionnel ce jour-là. Willy Brandt cherchait dans sa voiture encore quel geste unique il pourrait avoir ce jour-là. » Bref, on pourrait mettre en jeu tous les paramètres qui justifieraient finalement le geste de cet homme qui s'agenouille devant un monument aux morts. Mais dans le même temps, aucun de ces paramètres n'épuise la spontanéité de ce geste et qui, elle, pourrait relever d'une narration ou d'un récit, je ne sais pas, Élodie Cassan.
Alors, deux remarques par rapport à ce que vous dites. Récit, est-ce que c'est narration ? Moi, ce que je dirais, c'est la chose suivante. Le récit renvoie à l'activité de raconter et de narrer. Donc, je dirais narration, c'est l'activité et récit, c'est le résultat. Et cette narration qui aboutit à un récit, qui peut avoir plusieurs formes. Ce peut être un récit qui est entièrement construit selon la flèche temporelle, début de la vie, milieu, fin. Ce peut être également la description de toute une époque dans une vue, dans une perspective synoptique.
Ensuite, une vue d'ensemble, quoi.
Une vue d'ensemble. Par rapport à ce que vous dites, vous posez à travers votre exemple un problème qui est central dans la seconde partie de la réflexion.
Gardez-le pour la bonne bouche, hein. On y vient à la seconde partie, parce qu'il faut avancer. Dans cette première partie, comment est-ce que vous infléchissez votre propos ? Comment est-ce que vous justifiez une transition ? Comment est-ce que vous en venez à la seconde partie, justement, Élodie Cassan ?
Oui, comment j'en viens à la seconde partie ? Alors, dans la première partie, je fais d'abord une conclusion. Je fais le point sur ce que j'ai essayé de montrer en première partie. Dans la première partie, j'essaye de montrer d'entrée. Pourquoi l'histoire s'appuie sur des récits? Ça permet de donner une existence au passé. Quelle est la caractéristique d'un récit historique? C'est pas un roman, il ne se donne pas comme un roman, même si on peut le questionner ensuite, il ne s'agit pas de parler d'inventer une fiction. Comment construire un récit historique? On cherche des documents. Donc voilà la conclusion. L'histoire est du côté du récit, pour autant que l'historien doit s'exprimer sur le passé qu'il vise à étudier. Transition très simple, l'histoire se réduit-elle à un récit? Est-ce à dire pour autant que l'histoire ne soit qu'un récit?
Est-ce qu'on a tout dit du passé quand on l'a mis en récit, au fond?
Est-ce qu'on a tout dit du passé quand on a mis en récit? Est-ce qu'il y a une adéquation entre l'objectif de l'historien qui est produire une connaissance vraie du passé et le moyen qui est la construction de récits? On arrive en deuxième partie, où là, il va s'agir de montrer en quoi le récit n'est qu'une composante parmi d'autres de la discipline historique et en quoi il ne suffit pas à la caractériser entièrement à lui seul, et éventuellement même essayer de voir dans quelle mesure cette approche serait réductrice, en quoi est-ce qu'il n'en donnerait qu'une vision partielle.
L'implicite de la deuxième partie, c'est qu'il y a une différence entre le récit et la science.
Alors, et il va donc falloir, dès le début de la deuxième partie, rendre explicite cet implicite en rappelant deux choses. La première, c'est que le discours de l'historien se veut scientifique et son objet en tant qu'homme de science, c'est de donner une représentation vraie du passé. Et cet objet, c'est ce qui fait la spécificité de l'histoire, par distinction avec des sciences plus théorétiques comme les mathématiques, la physique, la biologie, à savoir que, pour le dire vite, dans ces autres domaines scientifiques, on ne vise ni le passé, ni le présent, ni le futur, mais à chaque fois des lois qui soient universelles et nécessaires, et pas simplement décrire un contexte particulier. Donc, rappeler le projet auquel le discours de l'historien doit répondre. Ensuite, deuxième remarque, se demander si recourir à un récit, c'est le meilleur moyen pour y parvenir. Et là, effectivement, on commençait à essayer de mettre en évidence les limites de cette articulation histoire-récit.
Moi, général de Gaulle, j'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Ici, on droit. Voici le sixième bulletin d'information de la BBC.
Quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
Ici, Londres. Ceci termine
notre émission de... Voilà un petit montage, un cadeau de Midia Portis Guérin à nos auditeurs et à vos élèves qui vous accompagnent aujourd'hui ce vendredi pour commenter la question de savoir ou pour disserter sur la question de savoir si l'histoire n'est qu'un récit. On va reprendre le fil de votre dissertation, Elodie Cassan. Juste avant ça, un petit point sur l'épisode du 18 juin 40. L'enregistrement du 18 juin 40, si fameux, du général de Gaulle, n'est pas un enregistrement en temps réel. Le général de Gaulle a enregistré son discours, son appel du 18 juin, après coup. Sur le moment, l'appel du 18 juin n'a pas été enregistré. C'est donc non pas une réécriture, mais le général de Gaulle, pressentant que ce qu'il disait là était peut-être important, peut-être historique, le pressentant d'emblée, a pris le soin, pris la peine, éprouvé le besoin de réenregistrer cette intervention. Qu'est-ce que ça vous inspire dans le cadre précisément de la constitution de l'histoire en récit ou des limites justement de l'histoire comme d'un récit ?
Alors, il s'agit ici d'une tentative faite par un acteur de l'histoire contemporaine pour s'écrire lui-même. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est très intéressant par rapport à notre sujet, c'est qu'on a le général de Gaulle qui, acteur de l'histoire, cherche à se présenter, pas simplement dans la posture de l'homme qui sait de quoi il parle, comme il le fait dans ses mémoires, mais qui cherche à fabriquer des documents. Et donc ça nous renvoie à l'exigence d'exactitude de l'historien, à la démarche de l'historien qui doit être de s'assurer de ne pas se trouver face à des faux, qui doit vérifier la date, qui doit vérifier les conditions de production de ce document, qui tout ceci s'inscrit dans un travail d'interprétation.
De la nécessité donc d'une science de l'histoire qui ne résume pas l'histoire non plus, et c'est là la difficulté, Elodie Cassin.
En effet, parce que ce qui se joue également dans ce document sonore, qui est un magnifique témoignage, ce qui se joue également, c'est de l'émotion. C'est un acteur central de la Seconde Guerre mondiale qui permet de... émotion de cet acteur qu'il n'est peut-être pas possible de retranscrire comme tel dans un cours d'histoire, dans une synthèse sur la Seconde Guerre mondiale, dans la démarche qui consiste à réenregistrer l'appel du 18 juin, à enregistrer puisqu'il n'était pas enregistré. Il se joue de la part du général de Gaulle, à la fois donc un effort pour se mettre en avant, mais en même temps un effort pour revivre cette période. Et de ce point de vue-là, il est évident que l'historien, devant faire preuve d'un recul critique, ne pourra pas nécessairement prendre en compte comme ayant une véritable valeur historique l'acte d'enregistrer l'appel du 18 juin.
Et que fait-on alors dans ces conditions ? Donc comment est-ce qu'on pense la science de l'histoire par-delà le récit même de l'histoire, Elodie Cassin ?
On rappelle le projet qui est ce qui revient. Et là, encore une fois, on est en terminale et on s'adresse à des élèves de terminale. Ceci revient à rappeler deux concepts qui sont vus dans le cours, sur la science. Le concept d'explication, le concept de compréhension.
La distinction de Diltay.
Oui, mise en place donc, notamment par Diltay au XIXe siècle pour essayer de dégager les méthodes des sciences. L'idée de Diltay, elle est très connue. Expliquer, c'est chercher des causes. Cette démarche est mise en place dans les sciences de la nature. Comprendre, c'est reconstituer des intentions, des mobiles, des motifs. Et cette démarche est illustrée exemplairement dans les sciences de l'homme. Cette distinction, elle a ensuite été complexifiée par des philosophes et des historiens qui réfléchissent sur la pratique historienne. À savoir qu'en histoire, il s'agit à la fois d'expliquer et de comprendre, de réinscrire des événements dans des séries causales et d'essayer de comprendre également pourquoi et comment tel événement a pu se produire, qu'est-ce qu'éventuellement il a pu se passer, qu'est-ce qui était dans la conscience commune, qu'est-ce qui était dans les mentalités du temps, ce qui permettait de contribuer à la production de cet événement. Une fois qu'on a rappelé ce projet, on essaye de mettre en perspective la notion de récit. Est-ce que faire un récit, ce n'est pas risquer de succomber au sortilège de la fiction ? Est-ce que faire un récit, ce n'est pas non plus risquer de manquer de recul ? Ne faudrait-il pas d'abord et avant tout penser le quotidien du métier d'historien ? Pour expliquer et pour comprendre, il faut chercher. Donc il va falloir penser l'activité de l'historien pas tant comme récit que comme recherche, que comme enquête, ce qui est le sens étymologique de la notion d'histoire, enquête qui se construit dans des archives. On peut prendre l'exemple. Pour le coup, c'est pas dans les archives, mais l'exemple de la découverte de la pierre de Rosette. On est en 1799, campagne d'Égypte de Bonaparte, un soldat français découvre la pierre de Rosette. Fragment de stèle de l'Antiquité, trois versions d'un même texte. Cette pierre est ensuite ramenée en France, en Europe. Les savants l'analysent, il faut plusieurs années pour que Champollion puisse voir qu'il y a donc trois plusieurs langues. Une, c'est donc de l'égyptien en hiéroglyphes, de l'égyptien en écriture démotique et de l'alphabet grec. Et Champollion va parvenir ensuite, en 1822-24, à déchiffrer les hiéroglyphes en comprenant que c'est le même texte dans les trois langues. Qu'est-ce que cette histoire nous raconte sur le quotidien du métier d'historien ? C'est que la découverte de ce document, de cette trace du passé, permet d'explorer de manière beaucoup plus solide l'antiquité égyptienne. Et faire de l'histoire, c'est ça.
Comment français, juif, situé à un moment du devenir, puis-je connaître l'ensemble dont je suis un atome entre des centaines de millions ? Comment puis-je saisir l'ensemble autrement que d'un point de vue, un entre d'autres innombrables ? Jusqu'à quel point suis-je capable de connaître objectivement l'histoire, les nations, les partis, les idées dont les conflits remplissent la chronique des siècles, et mon temps ? Une critique de la connaissance historique devait répondre à cette interrogation. Cette problématique comportait une autre dimension. Le sujet, en quête de la vérité objective, est immergé dans la matière qu'il veut explorer et qui le pénètre, dans la réalité dont, en tant qu'historien ou économiste, il extrait l'objet scientifique. Et alors je devinais peu à peu mes deux tâches. Comprendre ou connaître mon époque aussi honnêtement que possible, sans jamais perdre conscience des limites de mon savoir. Me détacher de l'actuel, sans pourtant me contenter du rôle de spectateur. Élodie Cassan est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine sur le bac philo. L'histoire n'est-elle qu'un récit ? C'est le sujet du jour. Élodie Cassan, est-ce qu'il est pertinent de lire ce passage des mémoires de Raymond Aron ou de l'avoir en tête éventuellement devant un tel sujet ? Aron est celui qui veut faire son travail d'historien, mais sait que pour être historien, il n'en est pas moins homme. Et qu'au fond, les limites, ce qu'il appelle les limites de la connaissance historique, lui viennent du fait qu'il ne peut pas penser l'histoire séparément de lui-même. Et que de là, Aron forge un oxymore, une contradiction vivante, qui est celle de spectateur engagé, à la fois dans son époque et en même temps dans l'entreprise de compréhension de l'histoire. Est-ce que cette critique de la connaissance historique qu'opère Raymond Aron, qui est une critique à la fois de la mise en légende de l'histoire et des abus, des mauvaises interprétations, des mystifications qui vont avec la mise en légende de l'histoire, mais qui est aussi une critique de la science de l'histoire comme une science exacte, est-ce qu'au fond cette démarche d'Aron, qui est à la fois sceptique et qu'ancienne, qui veut trouver un sens à l'histoire sans pour autant se dire qu'elle a trouvé le sens ultime de l'histoire, est-ce que cette démarche-là est pertinente pour la question qui nous occupe depuis le début de cette émission, à savoir, l'histoire n'est-elle qu'un récit ?
Oui, elle est pertinente et elle est centrale dans la seconde partie de la dissertation, à savoir quand cherchant à mettre en lumière les limites d'une approche de l'histoire comme récit, on en vient à poser un problème auquel le texte d'Aron fournit une réponse.
Nous y sommes dans la deuxième partie
problème,
de la dissertation.
Tout à fait, qui est le problème de... On est au cœur de la deuxième partie. Le problème de l'objectivité du discours de l'historien et...
Parce que c'est quand même quelqu'un qui parle.
C'est quand même quelqu'un qui parle. Il s'agit, avec des outils d'historien, dans l'extrait que vous avez lu, de poser le problème de ce que c'est qu'une science, qu'est-ce que c'est qu'un propos objectif. On définit dans les sciences de la nature, à propos de la physique, très facilement la question de l'objectivité. Il s'agit de dégager des lois de la nature. Objectif, c'est quelque chose qui est universel et nécessaire. Pour ce qui est des sciences de l'homme, cette définition est difficile d'application. D'abord parce qu'on travaille sur une matière qui n'est pas inerte, et ensuite parce que cette matière, elle a disparu, elle est difficile d'accès, et enfin parce qu'il s'agit de l'aborder constamment de manière provisoire, avec des outils qui peuvent être sans cesse améliorés. Les vérités qu'on obtient sont provisoires. Et cette posture de spectateur engagé, c'est une manière de mettre en scène ce problème et de dire que même si l'historien s'appuie sur des récits, même s'il ne fait pas que cela, il a malgré tout conscience de la spécificité de l'objet qui est le sien. Et c'est cette conscience réflexive-là qui construit la scientificité de l'histoire également.
Alors, mais vous parlez de scientificité de l'histoire, c'est une scientificité qui repose sur la possibilité toujours ouverte, au fond, hein, de réinterpréter le même phénomène. C'est intéressant, l'histoire, vous savez, il y a un passage d'Albertine disparue dans lequel le narrateur de La recherche du temps perdu considère que l'avenir lui semble une chose tout à fait stable, uniforme, univoque, alors que le passé, lui, change tout le temps. Et est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre cette métaphore pour concevoir le travail de l'historien, finalement, dont le passé qu'il étudie se modifie en un sens au gré des outils dont il dispose, des informations, des archives qu'on ouvre, etc. etc. Si au fond le prisme ou le filtre de la scientificité historique n'impose pas de, à chaque fois, redéfinir justement le passé dont on parle et réinterpréter constamment le passé qu'on a sous les yeux ou qui nous précède et qui pourtant ne change plus.
Ce qu'il s'agit ici, à travers votre question, de penser, c'est la spécificité des sciences humaines. Qu'est-ce que c'est que l'histoire comme science humaine?
Est-ce que science humaine, ce n'est pas une contradiction?
Exactement. C'est le problème que vous posez. Pour proposer quelques éléments de réponse, le filtre scientifique impose de redéfinir le passé, mais il faut dire quelque chose de plus, c'est que ce passé n'existe pas. C'est-à-dire que l'historien qui raconte ou l'historien qui étudie la pierre de Rosette, tous les deux se confrontent à une dimension de l'existence humaine qui est derrière, qui explique ce qu'ils sont au jour présent en grande partie, mais qui n'existe que de par les traces qu'elle a laissées. Donc, redéfinir le passé, oui, mais ce passé n'est pas prédonné. Il ne s'agit pas dans un récit de reproduire fidèlement une réalité non plus. C'est cet élément-là qu'Aron apporte également dans d'autres textes, notamment dans les leçons sur l'histoire, où il insiste vraiment sur quelque chose qui serait une illusion épistémologique, qui consisterait à dire l'historien se penche sur le passé. Dans l'abstrait, c'est très beau, c'est très séduisant, mais dans le concret, se pencher sur le passé, c'est proposer des constructions qui sont forcément provisoires, qui doivent être affinées. Et au début du XXe siècle, en France notamment, des historiens ont débattu sur les méthodes et sur les objets de l'histoire. Et dans ce contexte-là, cette question de comment on s'y prend pour accéder au passé s'est effectivement posée à nouveau frais.
C'est-à-dire à quoi on est attentif quand on parle du passé, au fond ?
La question est la suivante. Pour s'en tenir à ce moment-là de l'histoire, de l'historiographie, on a comme une alternative. Est-ce que faire l'histoire, c'est faire l'histoire des batailles, c'est faire l'histoire des relations diplomatiques entre les États, ou est-ce que faire l'histoire, c'est essayer de saisir quelque chose comme le fait social total, pour reprendre une expression utilisée dans le courant de l'école des annales. Est-ce que c'est reconstruire le parcours d'un grand homme, ou est-ce que c'est faire l'histoire des paysans français?
Par exemple, au moment de la Révolution française, est-ce que c'est raconter la vie de Mirabeau ou est-ce que c'est décrire les grandes famines qui précèdent les émeutes?
Exact, oui.
Alors dans ces conditions, on est dans le registre ici davantage dans cette deuxième partie que vous proposez. Donc cette scientificité historique, au fond, pour la caractériser, consisterait davantage à s'occuper finalement des famines, des grands mouvements ou des grandes causalités à l'œuvre dans l'histoire, plus que des trajectoires individuelles qui, elles, feraient simplement l'objet d'un récit, Élodie Cassin. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, parce que quand on pense à un roman, en tant qu'il raconte une histoire, un roman s'occupe du parcours d'un ou de plusieurs personnages. Un roman initiatique, Le Père Goriot, va raconter comment Rastignac arrête d'être naïf et se donne les moyens de ses ambitions. Donc un roman, un récit, le récit tel qu'il est vu à travers le roman, c'est l'histoire de quelques individus. Si on pense que récit porte sur quelques personnages, dans ce cas-là, on peut mettre en question la notion de récit en se demandant si on ne pourrait pas parler de groupes sociaux, parler d'époque, et dans ce cas-là, peut-être que ça ne s'appellerait pas du récit, mais ce serait de l'histoire quantitative. Essayer de raconter, je vais reprendre mon exemple des paysans, mais essayer de faire une histoire des paysans, faire une histoire des femmes. On a toujours un début, un milieu, une fin, mais il s'agit de décrire une classe et il s'agit de décrire le contexte et les mentalités.
Est-ce que quand Zola écrit Germinal, il fait de l'histoire un récit? Et est-ce qu'il fait de l'histoire ou est-ce qu'il se contente de raconter une histoire? Est-ce que quand Zola, décrivant Germinal, le parcours de quelques figures, hein, quelques individus, Maheu, Lantier, quelques figures, les bourgeois, enfin bon, Germinal, est-ce qu'il... et en même temps, il prophétise une germination qui va faire éclater la terre, et donc les révolutions ouvrières à venir. Quand Zola raconte ça, est-ce qu'il fait de l'histoire ou est-ce qu'il ne fait que du récit, au fond? Voilà, est-ce qu'il y a une... Quelle est la valeur historique d'une entreprise romanesque comme celle de Zola dans Germinal?
Alors, qu'est-ce qu'un roman historique? Deux choses. D'abord, je dirais que Zola rend service au prof d'histoire, puisqu'il...
Au prof de lettres aussi, d'ailleurs.
Au prof de lettres également. Mais un professeur d'histoire peut s'appuyer sur des textes de Germinal qui seraient vus en cours par les élèves comme des exemples. Deuxième chose... Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? Parce que c'est un roman naturaliste qui, comme un récit historique, vise à avoir le réel comme point de référence. Maintenant, du même coup, qu'est-ce qu'un roman historique? Suffit-il de raconter l'histoire de Lantier pour faire de l'histoire? Pas sûr du tout.
Est-ce qu'on n'a pas là justement un critère de distinction entre l'histoire, le récit et la science?
Le critère de distinction, c'est qu'on est dans une fiction malgré tout, qui s'inscrit dans fin du 19e siècle, début 20e siècle. Donc des éléments du réel sont repris et exploités à des fins romanesques.
Mais une fois, Élodie Cassan, que vous avez marqué cette distinction entre le récit, la science, à l'intérieur de l'histoire, enfin tout l'objet de la deuxième partie au fond, hein, où vous montrez comment il ne suffit pas de raconter des histoires pour raconter l'histoire, pour le dire de façon très triviale. Mais une fois qu'on a dit ça... Où est le problème? Qu'est-ce qui justifie, au fond, que vous passiez à une troisième partie? Qu'est-ce qui justifie que vous infléchissiez encore le propos? Où va le raisonnement, l'argumentation, à partir du moment où vous avez marqué cette différence entre l'histoire, le récit et la valeur scientifique aussi d'une lecture de l'histoire?
Alors, même réponse que pour votre question tout à l'heure sur la fin de ma première partie, je fais le point sur ce que j'ai cherché à montrer en deuxième partie. Donc, effectivement, on montre que la forme narrative ne suffit pas pour rendre compte de l'activité de l'historien. À partir de là, on est tenu par la contrainte qui est celle du sujet. Il faut répondre à la question du sujet. Il s'agit donc de se demander...
Est-ce qu'on n'y a pas déjà répondu? C'est ça que je veux dire, au fond. Est-ce qu'en disant qu'il y a de la science et pas seulement du récit, est-ce qu'on n'a pas déjà répondu au sujet dans la deuxième partie?
Pas entièrement. Et justement, c'est ça qu'il faut se demander. C'est-à-dire que la deuxième partie s'efforce de montrer que la réalité historique ne s'épuise pas dans une mise en récit et que la scientificité de l'histoire explique que l'historien travaille avant tout des documents, cherche à les interpréter et pas simplement à faire des synthèses. La question est alors de savoir quelle statut le accordé au récit, puisqu'il y a malgré tout des récits historiques. Quel rôle joue le récit en histoire, même si le récit ne suffit pas à définir entièrement la discipline historique?
Et quels exemples vous prenez pour cette troisième partie?
Là, moi, je joue sur les différents auteurs possibles de récits. C'est-à-dire que je reviendrai volontiers sur De Gaulle en essayant du coup de spécifier deux types de récits. En disant les récits des acteurs de l'histoire, que ce soit des hommes célèbres ou pas, fournissent à l'historien de la matière et à ce titre restent nécessaires pour construire l'histoire. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle je mettrai l'accent, c'est que la mise en récit interviendra toujours, mais dans un second temps. Et troisième chose sur laquelle je mettrai l'accent, elle interviendra dans un second temps, puisque d'abord, il faudra chercher, trouver, reconstruire, faire des hypothèses. Il s'agira ensuite d'écrire pour synthétiser. Et troisième temps, la mise en récit seconde n'est malgré tout pas secondaire. Et à plusieurs égards...
On est chez Ricoeur, là, hein, implicitement, hein, d'une certaine manière. Mais sauf que c'est un auteur qu'on lit assez peu en terminale, malgré tout. Hein. Est-ce qu'un élève peut avoir l'intuition que vous êtes en train de développer, Élodie Cassan, qui est extrêmement subtile, qui au fond inverse les termes du débat, où le récit précède l'histoire, hein, en un sens, et en tout cas lui appartient, fait partie de ça et la constitue, la construit. Est-ce que cette inversion-là, est-ce qu'une telle intuition peut venir à un élève qui n'a pas lu Ricoeur?
Est-ce qu'une telle intuition peut venir à un élève qui n'a pas lu Ricoeur? Ça dépend des élèves. L'élève n'est pas un concept, et du coup, ça met difficile de vous répondre dans l'abstrait. Deux cas de figure. L'élève a le ricoeur, il a appris son cours, il est tiré d'affaire. Deuxième cas de figure...
Il a appris votre cours, hein, parce que tout le monde ne fait pas cours sur Ricoeur.
En effet, mais sur cette question-là, cette référence est utile. Il n'a pas travaillé Ricoeur, mais il a travaillé l'histoire comme expliquer, comprendre, d'une part, et il a quelques notions sur la notion de récit. Il a travaillé la méthode, et ben il va chercher comment penser une articulation entre les deux. Il peut trouver tout seul que nous écrivons, nous pouvons tenir notre journal intime, nous pouvons écrire des mails. Tous les jours, nous écrivons dans l'histoire. Et l'historien qui travaille sur des documents doit toujours s'efforcer de s'appuyer sur ces documents. Il peut trouver le lien logique entre l'histoire comme recherche d'informations et l'histoire comme mise en forme. Il peut trouver ces éléments-là. Après, qu'est-ce qu'il va lui falloir pour arriver à accéder à ces éléments dont parle Ricoeur et qui engagent l'idée que tout homme vit dans le temps, passé, présent, futur. Un récit, c'est du passé, du présent, du futur. Donc, il y a toujours un lien entre les deux. Qu'est-ce qu'il va lui falloir ? Il lui faut un cours sur le temps. Il lui faut l'idée que passé, présent, futur, il lui faut au minimum Saint-Augustin.
Et oui, et que la narration est indispensable pour faire le lien, justement, entre le passé, c'est-à-dire l'espace d'expérience, comme dit Ricoeur, et l'horizon d'attente, c'est-à-dire le futur. Et qu'au fond, l'histoire est aussi faite des récits qu'il a parsèment, Élodie Cassan.
Et à ce sujet, il y a un petit texte de Borges et de Adolfo Bioy Casares qui s'appelle Chronique de Bustos Domecq. C'est une série de chroniques absolument loufoques. L'une de ces chroniques met en scène la question de l'histoire. Ça s'appelle « Un point de vue tout à fait nouveau ». Et dans ce texte, il s'agit de poser un problème qui est celui de la scientificité de l'histoire. Et
Comment s'y prend-il ?
Il décrit un congrès. C'est un congrès d'historiens. Des historiens font un congrès à Pau. On a un compte-rendu de congrès. Dans ce compte-rendu, on explique ce qui s'est agi de travailler dans le cadre de ce congrès. L'histoire est-elle une science ou est-elle un art ? Donc, est-elle du côté de l'explication ou du côté de la mise en récit, éventuellement ? Réponse, l'histoire est un acte de foi. Autrement dit, quand on est un historien, on peut faire parler les faits n'importe comment. On peut aller dans tous les sens. L'exemple est pris notamment de Carlos Gardel, qui est donc un Français qui a fait une carrière de chanteur en Argentine, chanteur de tango. L'historien va essayer de parler de cette dualité. Je cite un passage simplement du texte. L'historien grossit les faits, il enivre, exalte, encourage, enhardit. Son rôle n'est pas de calmer, d'apaiser. Notre consigne est de rejeter dès le départ tout ce qui ne trempe pas l'âme, tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui n'est pas glorieux. Exemple, c'est une vérité générale que dire qu'une défaite militaire ne convient pas à un pays. Par conséquent, écrire l'histoire de Napoléon, c'est dire que la bataille de Waterloo, c'est une victoire sur les hordes anglaises et prussiennes. Dans ce texte, l'idée qui est défendue, c'est que l'histoire satisfait les justes désirs de revanche de chaque peuple. Donc ici, on a une mise en question de l'histoire comme étant un récit, à partir de l'idée qu'une histoire comme étant simplement un récit exprime des émotions des acteurs, dit des vérités sur les nationalismes, mais ne dit pas forcément la vérité de ce qui s'est passé.
Quand on passe une épreuve du bac, on passe par bien des émotions, Élodie Cassan, et l'une des émotions, c'est la nécessité de clore son propos, de conclure avec les regrets qui vont avec. Naturellement, on arrive à ce moment-là, c'est à ce moment symbolique où un appariteur de mauvaise volonté vous arrache votre copie en vous disant « voilà, c'est fini » et vous écrivez à toute hâte, en toute hâte, la conclusion. Si vous étiez dans cette situation-là, Élodie Cassan, comment est-ce que vous concluriez ?
Je conclurais que l'histoire n'est pas qu'un récit, d'abord et avant tout, parce qu'elle ne se réduit pas à une forme narrative, mais l'histoire est malgré tout définie en partie par la notion de récit, étant donné que, comme on l'a vu en troisième partie, il s'agit dans l'histoire de raconter le passé qui s'est vraiment produit, de s'inscrire dans une temporalité et que les outils de la narration sont le meilleur outil pour ressaisir cela.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits, une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfert, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, oh, oh, les loups étaient loin de Paris.
Voilà, une autre version narrative d'un grand événement de l'histoire, c'est Les Loups de Reggiani, et pourquoi pas, hein, pourquoi ne pas finir cette émission et cette émotion en votre compagnie, Élodie Cassan, merci d'avoir joué le jeu,
merci
d'avoir repassé le bac, encore une fois, pour nous et pour nos auditeurs.
Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-le-le, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris.
Comme toujours, comme tous les jours, à 10h50 ou presque, on retrouve le journal des Nouveaux Chemins de la Connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Aujourd'hui, comme tous les jours de cette semaine, je vous propose un journal spécial Bac Philo pour continuer à préparer jusqu'au bout l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Aujourd'hui, puisque le sujet du jour parlait d'histoire, je vous propose de découvrir le dernier livre de Roger Paul Droit qui présente 20 philosophes qui ont fait le XXe siècle. Bonjour Roger Paul Droit.
Bonjour.
Ces 20 philosophes qui ont fait le XXe siècle, vous les nommez des maîtres à penser. Et d'ailleurs, c'est le titre que vous avez donné à votre livre sorti il y a peu de temps aux éditions Flammarion, et dans lequel vous montrez que contrairement à ce que l'on peut penser, surtout quand on découvre la philosophie, la pensée contemporaine n'est pas réservée aux experts. C'est-à-dire que les philosophes du XXe siècle sont compréhensibles et accessibles, y compris à des élèves de terminale, Roger Paul Droit.
Oui, les philosophes du XXe siècle ne sont pas non plus des extraterrestres, enfin pas plus que d'autres, c'est-à-dire qu'ils parlent une langue humaine, ils vivent dans un monde qui est traversé comme le nôtre, et plus encore peut-être que le nôtre, par des guerres, par l'industrie, par les déchirements des révolutions, par des luttes, par le sentiment de l'absurde et par le règne de la technique. Mais face à tout cela, ils réfléchissent de manière, j'ai envie de dire, vivante et radicale. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on croit souvent que rencontrer Socrate ou Épicure ou Diogène, c'est plus commode en quelque sorte, parce que ce sont ces grandes figures de l'Antiquité qui parlaient aussi le langage de tout le monde et dans les rues. Alors que du côté des contemporains, on a l'impression qu'il y a des bibliothèques à franchir, un jargon hérissé de termes techniques. Ça n'est pas toujours faux, cette impression. Mais je crois que derrière cette barrière, et la présence de beaucoup de textes de contemporains, Foucault, Lévi-Strauss, Heidegger et d'autres, dans les manuels de philosophie, dans les cours de terminale, le montrent, il y a la nécessité de passer au-delà de cette peur. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est très simple, c'est un livre pour les débutants de tous les âges, c'est-à-dire qui... grande figure par grande figure, de Bergson jusqu'à Derrida et Habermas, en passant par Sartre, Camus et quelques inattendus comme Gandhi, par exemple, essaye de donner une silhouette, un cadrage, les idées forces, et puis aussi des conseils pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut commencer par lire, par où on peut entrer dans cette pensée, qu'est-ce qu'on peut lire si on veut approfondir. Enfin, voilà, j'ai essayé essentiellement de faire quelque chose qui soit aussi exact que possible sur le plan des idées, mais simple, accessible et utile pour tout le monde.
Alors comment s'y prend-on justement lorsqu'on veut essayer de montrer que malgré le jargon apparent ou réel selon les philosophes, ces termes qui peuvent paraître repoussants sont accessibles hein, puisque derrière ces auteurs, on trouve effectivement certains mots barbares, des mots de déconstruction, pragmatisme, phénoménologie, autant de termes qui, quand on découvre la philosophie, paraissent effrayants. Comment procède-t-on pour essayer de les éclairer, de les déplier, de montrer qu'en réalité, ils renvoient un sens très simple et accessible ?
On prend des exemples, on traduit... et on illustre. J'ai été professeur de terminale pendant une bonne dizaine d'années. Il m'est arrivé de proposer à mes élèves de traduire Kant en argot, par exemple.
Ça réussit.
Ça réussit, ça donnait évidemment des résultats assez joyeux, mais qui leur permettaient quand même de saisir autrement que dans le vocabulaire technique. Alors, il faut distinguer, je crois, les philosophes dont le vocabulaire est technique, mais finalement rapide à déchiffrer, Kant par exemple, mais la déconstruction chez Derrida, c'est plutôt l'idée de saisir ce qui, dans nos évidences, fonctionne selon des couples d'opposés que l'on peut faire jouer constamment. C'est-à-dire penser, si vous voulez, que les concepts qui sont les nôtres héritent d'une longue tradition qu'on interroge, que l'on démonte. Ça ne veut pas dire que nos idées sont défaites ou démolies. Ça signifie qu'elles sont décomposées dans leur passé, dans leur histoire, et qu'à partir de ce moment-là, on les voit de manière critique.
Alors c'est intéressant que vous soyez arrêté sur ce thème de déconstruction, puisque... quand on lit votre livre, on voit que ce qui départage les penseurs du XXe siècle, en fin de compte, c'est leur attitude envers la vérité. Puisque pour les uns, il s'agit de construire, de clarifier la vérité, et pour les autres, au contraire, il s'agit de la déconstruire, de la soupçonner, voire de la compliquer. Or, vous montrez bien que la vérité, derrière le terme de vérité, il n'y a pas une espèce de réalité mystérieuse, inaccessible. Et pour le montrer, vous prenez cet exemple, une phrase très simple, vous imaginez quelqu'un qui est dans un village et qui se demande « comment va-t-on à la poste ?»
Voilà, je crois que c'est Davidson qui avait pris cet exemple-là. Si vous arrivez, vous avez une lettre à poster, vous ne savez pas où est la poste et vous demandez à quelqu'un qui habite dans le coin où est la poste. Bah, ce que vous vous attendez qu'il vous réponde, c'est le plus court chemin ou l'endroit où ça se trouve vraiment ou comment y aller. Et finalement, c'est une notion de la vérité qu'on dira un peu simplette, assez fruste, mais qui n'est pas fausse. Ça veut dire qu'il y a quelque part une poste, qu'il y a un chemin pour y aller, qu'il y a des réponses qui sont bonnes et d'autres qui sont fausses, qu'il y a des chemins qui vous égarent et d'autres qui mènent là où vous voulez. Alors que si vous mettez tout à fait cela en cause, alors vous allez, au lieu de répondre à la question « comment on va à la poste ?» ou « où elle se trouve ?», faire l'histoire des lettres, des correspondances, vous interroger sur ce que ça veut dire que de poser la question de savoir où on va, et vous allez en quelque sorte finalement considérer tous ces dialogues comme de la littérature au lieu de réfléchir sur le caractère pratique et réels qu'ils peuvent avoir.
Oui, mais le problème, c'est quand on emploie le terme de vérité dans un sens qui est peut-être beaucoup plus abstrait, justement, puisque toutes les questions ne peuvent pas se ramener à une question aussi simple de comment va-t-on à la poste ? Quand on parle d'une vérité qui serait peut-être plutôt d'ordre métaphysique, il est très difficile, parfois, de l'ancrer, de la mettre à l'épreuve d'une réalité.
Bien sûr, on peut évidemment soit postuler qu'il n'y a pas de vérité du tout, soit postuler qu'elle est inconnaissable, ou qu'il y a plusieurs versions de la manière dont on peut l'atteindre. Ce que je crois, si vous voulez, c'est que la philosophie, d'une certaine manière, ce sont les aventures de la vérité. C'est les manières de la concevoir, de la définir, de penser qu'on peut y accéder ou non, de la mettre du côté des sciences ou du côté de la métaphysique, de la situer dans la vie pratique et la vie morale ou dans la pure connaissance. Je crois que ces variations, multiples évidemment, et toutes d'une richesse infinie, sont à garder en tête une brève histoire de la philosophie que j'avais publiée chez Flammarion avait en quelque sorte comme fil l'idée des aventures de la vérité et dans Maître à penser, en voulant présenter ces 20 philosophes qui ont fait le XXe siècle, j'ai gardé finalement le même fil directeur.
Voilà, et parmi ces maîtres à penser du XXe siècle, on trouve les plus connus, hein, Bergson, Freud, Foucault, Lévinas, mais aussi des moins connus, des plus inattendus, vous l'avez dit, parmi lesquels William James, Quine et ou encore Gandhi. Merci beaucoup Roger-Paul Droit, le titre de votre livre, c'est donc Maître à penser, 20 philosophes qui ont fait le XXe siècle, et on trouve ça aux éditions Flammarion, et c'est très très utile pour les étudiants, y compris pour les élèves qui passent le bac cette année.
Merci Adèle, merci à tous les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette semaine, une semaine que vous pourrez retrouver tout entière à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance sur notre site internet, donc, où vous attendent le téléchargement de toutes les émissions de la semaine. Je vous recommande de télécharger ces émissions si vous avez en particulier le bac à passer à la fin de l'année. Vous pourrez également sur notre site internet écouter en ligne toutes les émissions précédentes et retrouver une bibliographie spéciale Bac Philo ainsi que les plans de tous nos candidats professeurs de la semaine avec les références bibliographiques de leur propre dissertation. La semaine prochaine, changement de décor pour nous et pour vous puisque c'est de Diderot que nous vous parlerons à nouveau. Vous entendrez là une semaine déjà diffusée du 1er au 6 février 2010 en compagnie du biographe virtuose de Diderot, Raymond Trousson. Quant au bac philo, eh bien on en reparlera dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance juste avant le bac, c'est-à-dire la semaine du 6 au 10 juin prochain, où 5 professeurs viendront de nouveau plancher devant leurs élèves pour vous et vous apporteront plans, conseils de méthode et objections. Rêves et réalités, peut-on penser la mort? Que vaut la joie de vivre? Autant de sujets que nous traiterons entre le 6 et le 10 juin prochain pour la seconde fournée. La deuxième série des émissions consacrées au bac philo cette année. 10h59 sur France Culture, dans un instant Culture Monde. Florian Delorme.